Chapitre 7. Complot. Le gros boiteux dont l'arrivée était accueillie par les détenus de la fosse au Lion avec une joie bruyante et dont la dénonciation pouvait être si funeste à Germain était un homme de taille moyenne. Malgré son embonpoint et son infirmité, il semblait agile et vigoureux. Sa physionomie bestiale, comme la plupart de celles de ses compagnons, se rapprochait beaucoup du type du bouledogue. Son front déprimé, ses petits yeux fauves, ses joues retombantes, ses lourdes mâchoires dont l'inférieur tressaillante était armée de longues dents, ou plutôt de crocs ébréchés qui, çà et là, débordaient les lèvres, rendaient cette ressemblance animale plus frappante encore. Il avait pour coiffure un bonnet de loutre, et portait par-dessus ses habits un manteau bleu à collet fourré. Le gros boiteux était entré dans la prison accompagné d'un homme de 30 ans environ, dont la figure brune et hâlée paraissait moins dégradée que celle des autres détenus, quoiqu'il affectât de paraître aussi résolu que son compagnon. Quelquefois son visage s'assombrissait et il souriait amèrement. Le gros boiteux se retrouvait, comme on dit vulgairement, en pays de connaissance. Il pouvait à peine répondre aux félicitations et aux paroles de bienvenue qu'on lui adressait de toutes parts. « Te voilà donc enfin, gros réjoui. Tant mieux, nous allons rire. Tu nous manquais. Tu as bien tardé. J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait pour revenir voir les amis. C'est pas ma faute si la rousse n'a pas voulu de moi plus tôt. Comme de juste, mon vieux, on ne vient pas se mettre au clou soi-même. Mais une fois qu'on y est, ça se tire, et faut gaudrioler. Tu as de la chance, Pique-Vinaigre est ici. Lui aussi, un ancien Melun, fameux, il nous aidera à passer le temps avec ses histoires, et les pratiques ne lui manqueront pas, car je vous annonce des recrues. Qui donc? Tout à l'heure, au greffe, pendant qu'on m'écrouait, on a encore amené 2 cadets. Il y en a un que je ne connais pas, mais l'autre, qui a un bonnet de coton bleu et une blouse grise, m'est resté dans l'œil. J'ai vu cette boule-là quelque part. Il me semble que c'est chez l'ogresse du Lapin Blanc. Un fort homme. Dis donc, gros boiteux, te rappelles-tu à Melun que j'avais parié avec toi qu'avant 1 an tu serais repincé? C'est vrai, tu as gagné, car j'avais plus de chance pour être cheval de retour que pour être couronné rosière. « Mais toi, qu'as-tu fait ?»« J'ai grinchi à l'américaine. »« Ah bon, toujours du même tonneau ?»« Toujours, je vais à mon petit bonhomme de chemin. »« Ce tour est commun, mais les singes aussi sont communs. »« Et sans une ânerie de mon collègue, je ne serais pas ici. »« C'est égal, la leçon me profitera. »« Quand je recommencerai, je prendrai mes précautions. »« J'ai mon plan. » « Tiens, voilà Cardillac, » dit le boiteux, en voyant venir à lui un petit homme misérablement vêtu, à mine basse, méchante et rusée, qui tenait du renard et du loup. « Bonjour, vieux !»« Allons donc, traînard, » répondit gaiement au gros boiteux le détenu surnommé Cardillac. « On disait tous les jours, il viendra, il ne viendra pas. Monsieur fait comme les jolies femmes, il faut qu'on le désire. » « Mais oui. Ah, ça, » reprit Cardillac, « est-ce pour quelque chose d'un peu corsé que tu es ici ? Ma foi, mon cher, je me suis passé l'effraction. Avant, j'avais fait de très bons coups, mais le dernier a raté. Une affaire superbe, qui d'ailleurs reste encore à faire. Malheureusement, nous deux, Franck, que voilà, nous avons marché dessus. » Et le gros boiteux montra son compagnon, sur lequel tous les yeux se tournèrent. « Tiens, c'est vrai, voilà Franck, » dit Cardillac. « Je ne l'aurais pas reconnu à cause de sa barbe. »« Comment ? C'est toi ? Je te croyais au moins maire de ton endroit à l'heure qu'il est. Tu voulais faire l'honnête ? » ?»« J'étais bête, et j'en ai été puni, » dit brusquement Franck. « Mais à tout péché, miséricorde, c'est bon une fois. Me voilà maintenant de la pègre jusqu'à ce que je crève. Gare à ma sortie. » À la bonne heure, c'est parlé. Mais qu'est-ce donc qui t'est arrivé, Franck? Ce qui arrive à tout libéré, assez colasse pour vouloir, comme tu dis, faire l'honnête. Le juge est si juste. En sortant de Melun, j'avais une masse de 900 et tant de francs. C'est vrai, dit le gros boiteux. Tous ses malheurs viennent de ce qu'il a gardé sa masse, au lieu de la fricoter en sortant de prison. Vous allez voir à quoi mène le repentir, et si on fait seulement ses frais. On m'a envoyé en surveillance à Étampes, reprit Franck. Serrurier de mon état. J'ai été chez un maître de mon métier. Je lui ai dit, je suis libéré, je sais qu'on n'aime pas les employés, mais voilà les 900 francs de ma masse. Donnez-moi de l'ouvrage, mon argent, ça sera votre garantie. Je veux travailler et être honnête. Parole d'honneur, il n'y a que ce Franck pour avoir des idées pareilles. Il a toujours eu un petit coup de marteau. Ah, comme serrurier, farceur. Et vous allez voir comme ça lui a réussi. Je propose donc ma masse en garantie au maître serrurier pour qu'il me donne de l'ouvrage. Je ne suis pas banquier pour prendre de l'argent à intérêt, qu'il me dit. Et je ne veux pas de libéré dans ma boutique. Je vais travailler dans les maisons, ouvrir des portes dont on perd les clés. J'ai un état de confiance, et si on savait que j'emploie un libéré parmi mes ouvriers, je perdrais mes pratiques. Bonsoir, voisin. N'est-ce pas, Cardillac, qu'il n'avait que ce qu'il méritait? Bien sûr. Enfant, ajouta le gros boiteux en s'adressant à Franck d'un air paterne, au lieu de rompre tout de suite ton banc et de venir à Paris fricoter ta masse, afin de n'avoir plus le sou et de te mettre dans la nécessité de voler, alors on trouve des idées superbes. Quand tu me diras toujours la même chose, dit Franck avec impatience. C'est vrai, j'ai eu tort de ne pas dépenser ma masse, puisque je n'en ai pas joui. Pour en revenir à ma surveillance, comme il n'y avait que 4 serruriers à Étampes, celui à qui je m'étais adressé le premier avait jasé. Quand j'ai été m'adresser aux autres, ils m'ont dit comme leurs confrères. Merci. Partout la même chanson. Voyez-vous, les amis, à quoi ça sert? Nous sommes marqués pour la vie, allez. Me voilà en grève sur le pavé d'Étampes. Je vis sur ma masse 1 mois, 2 mois, reprit Franck. L'argent s'en allait. L'ouvrage ne venait pas. Malgré ma surveillance, je quitte Étampes. C'est ce que tu aurais dû faire tout de suite, colasse. Je viens à Paris. Là, je trouve de l'ouvrage. Mon bourgeois ne savait pas qui j'étais. Je lui dis que j'arrive de province. Il n'y avait pas de meilleur ouvrier que moi. Je place 700 francs qui me restaient chez un agent d'affaires qui me fait un billet. À l'échéance, il ne me paie pas. Je mets mon billet chez un huissier qui poursuit et se fait payer. Je laisse l'argent chez lui et je me dis, c'est une poire pour la soif. Là-dessus, je rencontre le gros boiteux. Oui, les amis, et c'est moi qui étais la soif, comme vous l'allez voir. Franck était serrurier, fabriquait les clés. J'avais une affaire où il pouvait me servir. Je lui propose le coup. J'avais des empreintes. Il n'y avait plus qu'à travailler dessus, c'était sa partie. L'enfant me refuse. Il voulait redevenir honnête. Je me dis, il faut faire son bien malgré lui. J'écris une lettre sans signature à son bourgeois, une autre à ses compagnons, pour leur apprendre que Franck est un libéré. Le bourgeois le met à la porte, et les compagnons lui tournent le dos. Il va chez un autre bourgeois, il y travaille 8 jours, même jeu. Il aurait été chez 10 que je lui aurais servi toujours du même. Et je ne me doutais pas alors que c'était toi qui me dénonçais, reprit Franck. Sans cela, tu aurais passé un mauvais quart d'heure. Oui, mais moi, pas bête, je t'avais dit que je m'en allais à Longjumeau voir mon oncle. Mais j'étais resté à Paris, et je savais tout ce que tu faisais par le petit Ledru. Enfin, on me chasse encore de chez mon dernier maître serrurier comme un gueux bon à pendre. Travaillez donc, soyez donc paisible, pour qu'on vous dise non pas « Que fais-tu ?» mais « Qu'as-tu fait ?» Une fois sur le pavé, je me dis « Heureusement, il me reste ma masse pour attendre. » Je vais chez l'huissier, il avait levé le pied. Mon argent était flambé, j'étais sans le sou. Je n'avais pas seulement de quoi payer une 8aine de mon garni. Fallait voir ma rage. Là-dessus, le gros boiteux a l'air d'arriver de Longjumeau. Il profite de ma colère. Je ne savais à quel clou me pendre. Je voyais qu'il n'y avait pas moyen d'être honnête, qu'une fois dans la pègre, on y était à vie. Ma foi, le gros boiteux me talonne tant que ce brave Franck ne boude plus, reprit le gros boiteux. Il prend son parti en brave, il entre dans l'affaire, elle s'annonçait comme une reine. Malheureusement, au moment où nous ouvrons la bouche pour avaler le morceau, pincé par la rousse. Que veux-tu, garçon, c'est un malheur, le métier serait trop beau sans cela. C'est égal, si ce gredin d'huissier ne m'avait pas volé, je ne serais pas ici, dit Franck, avec une rage concentrée. Eh bien, reprit le gros boiteux, te voilà bien malade. Avec ça, tu étais plus heureux quand tu t'es chiné à travailler. J'étais libre. Oui, le dimanche. Et encore quand l'ouvrage ne pressait pas. Et le restant de la semaine enchaîné comme un chien. Et jamais sûr de trouver de l'ouvrage. Tiens, tu ne connais pas ton bonheur. Tu me l'apprendras, dit Franck avec amertume. Après ça, faut être juste, tu as le droit d'être vexé. C'est dommage que le coup ait manqué, il était superbe, et il le sera encore dans un ou deux mois. Les bourgeois seront rassurés et ce sera à refaire. C'est une maison riche, riche. Je serai toujours condamné pour rupture de ban. Ainsi, je ne pourrai pas reprendre l'affaire. Mais si je trouve un amateur, je la céderai pour pas trop cher. Les empreintes sont chez ma femelle, il n'y aura qu'à fabriquer de nouvelles fausses clés. Avec les enseignements que je pourrai donner, ça ira tout seul. Il y avait, et il y a encore, un coût de 10 000 francs à faire. Ça doit pourtant te consoler, Franck. Le complice du gros boiteux secoua la tête, croisa les bras sur sa poitrine et ne répondit pas. Cardillac prit le gros boiteux par le bras, la tira dans un coin du préau et lui dit après un moment de silence « L'affaire que tu as manquée est encore bonne ? Dans 2 mois, aussi bonne qu'une neuve. Tu peux le prouver ? Par Dieu ! Combien en veux-tu ? 100 francs d'avance, et je dirai le mot convenu avec ma femelle pour qu'elle livre les empreintes avec quoi on refera de fausses clés. De plus, si le coup réussit, je veux un 1/5 du gain. » Que l'on paiera à ma femelle. C'est raisonnable. Comme je saurai à qui elle aura donné les empreintes, si on me flibustait ma part, je dénoncerais. Tant pis. Tu serais dans ton droit si on t'enfonçait. Mais dans la pègre, on est honnête. Faut bien compter les uns sur les autres. Sans cela, il n'y aurait pas d'affaire possible. Autre anomalie de ces mœurs horribles. Ce misérable disait vrai. Il est assez rare que les voleurs manquent à la parole qu'ils se donnent pour des marchés de cette nature. Ces criminelles transactions s'opèrent généralement avec une sorte de bonne foi, ou plutôt, afin de ne pas prostituer ce mot, disons que la nécessité force ces bandits de tenir leurs promesses. Car s'ils y manquaient, ainsi que le disait le compagnon du gros boiteux, il n'y aurait pas d'affaire possible. Un grand nombre de vols se donnent, s'achètent et se complotent ainsi en prison, autre détestable conséquence de la réclusion en commun. Si ce que tu dis est sûr, reprit Cardillac, je pourrais m'arranger de l'affaire. Il n'y a pas de preuve contre moi. Je suis sûr d'être acquitté. Je passe au tribunal dans 15 jours. Je serai en liberté, mettons, dans 20 jours. Le temps de retourner, de faire les fausses clés, d'aller au renseignement, c'est 1 mois, 6 semaines, juste ce qu'il faut aux bourgeois pour se remettre de l'alerte. Et puis, d'ailleurs, qui a été attaqué une fois, croit ne pas l'être une seconde fois, tu sais ça. Je sais ça, je prends l'affaire, c'est convenu. Mais auras-tu de quoi me payer? Je veux des arts. Tiens, voilà mon dernier bouton, et quand il n'y en a plus... « Il y en a encore, » dit Cardillac en arrachant un des boutons recouverts d'étoffe qui garnissait sa mauvaise redingote bleue. Puis, à l'aide de ses ongles, il déchira l'enveloppe et montra au gros boiteux qu'au lieu de moule, le bouton renfermait une pièce de 40 francs. « Tu vois, » ajouta-t-il, « que je pourrais te donner des arts quand nous aurons causé de l'affaire. »« Alors touche-la, vieux, » dit le gros boiteux, « puisque tu sors bientôt. » et que tu as des fonds pour travailler, je pourrais te donner autre chose. Mais ça, c'est du nanan, du vrai nanan, un petit poupard. » Vol préparé de longue main. « Que moi et ma femelle nous nourrissons depuis 2 mois et qui ne demande qu'à marcher. Figure-toi, une maison isolée, dans un quartier perdu, un rez-de-chaussée donnant d'un côté sur une rue déserte, de l'autre sur un jardin, deux vieilles gens qui se couchent comme les poules. Depuis les émeutes et dans la peur d'être pillés, ils ont caché dans un lambris un grand pot à confiture plein d'or. C'est ma femme qui a dépisté la chose en faisant jaser la servante. Mais je t'en préviens, cette affaire-là sera plus chère que l'autre, c'est monnayé. C'est tout cuit et bon à manger. Nous nous arrangerons, sois tranquille. Mais je vois que t'as pas mal travaillé depuis que tu as quitté la centrale. Oui, j'ai eu assez de chance. J'ai raccroché de briques et de braques pour 150 francs. Un de ses meilleurs morceaux a été la grenouille de 2 femmes qui logeaient dans le même garni que moi, passage de la brasserie. Chez le père Micou, le receleur? Juste. Et Joséphine, ta femme? Toujours un vrai furet. Elle faisait un ménage chez les vieilles gens dont je te parle. C'est elle qui a flairé le pot au jaunet. C'est une fière femme. Je m'en vante. À propos de fière femme, tu connais bien la Chouette? Oui, Nicolas m'a dit ça. Le maître d'école l'a estourbi. Et lui, il est devenu fou. C'est peut-être d'avoir perdu la vue par je ne sais quel accident. Ah ça, mon vieux cardiaque, convenu. Puisque tu veux t'arranger de mes poupards, je n'en parlerai à personne. À personne, je les prends en sevrage. Nous en causerons ce soir. Ah ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On rit et on bêtise à mort. Qui est-ce qui est le prévôt de la chambrée? Le squelette. En voilà un dur à cuire. Je l'ai vu chez les Martial à l'île du Ravageur. Nous avons nossé avec Joséphine et la boulotte. À propos, Nicolas est ici. Je le sais bien, le père Micou me l'a dit. Il s'est plaint que Nicolas l'a fait chanter, le vieux gueux. Je lui ferai aussi dégoiser un petit air. Les receleurs sont faits pour ça. Nous parlions du squelette. Tiens, justement, le voilà, dit Cardillac, en montrant à son compagnon le prévôt, qui parut à la porte du chauffoir. Cadet, avance à l'appel, dit le squelette au gros boiteux. Présent, répondit celui-ci en entrant dans la salle, accompagné de Franck, qu'il prit par le bras. Pendant l'entretien du gros boiteux, de Franck et de Cardillac, Barbillon avait été par ordre du prévôt recruter 12 ou 15 prisonniers de choix. Ceux-ci, afin de ne pas éveiller les soupçons du gardien, s'étaient rendus isolément au chauffoir. Les autres détenus restèrent dans le préau. Quelques-uns même, d'après le conseil de Barbillon, parlèrent à voix haute, d'un ton assez courroucé, pour attirer l'attention du gardien et le distraire ainsi de la surveillance du chauffoir, où se trouvèrent bientôt réunis le squelette, Barbillon, Nicolas, Franck, Cardillac, le gros boiteux et 15 de détenus, tous attendant avec une impatiente curiosité que le prévôt prît la parole. Barbillon, chargé d'épier et d'annoncer l'approche du surveillant, se plaça près de la porte. Le squelette, ôtant sa pipe de sa bouche, dit au gros boiteux: « Connais-tu un petit jeune homme nommé Germain, aux yeux bleus, cheveux bruns, l'air d'un pante, d'un honnête homme ?»« Germain est ici ?» s'écria le gros boiteux, dont les traits exprimèrent aussitôt la surprise, la haine et la colère. « Tu le connais donc ?» demanda le squelette. « Si je le connais, reprit le gros boiteux, mes amis, je vous le dénonce, c'est un mangeur, il faut qu'on le roule. » « Oui, oui, reprirent les détenus. « Ah ça, est-ce bien sûr qu'il est dénoncé ?» demanda Franck. « Si on se trompait, rouler un homme qui ne le mérite pas. » Cette observation déplut au squelette qui se pencha vers le gros boiteux et lui dit tout bas: « Qu'est-ce que c'est celui-là ? Un homme avec qui j'ai travaillé. En es-tu sûr ? Oui, mais ça n'a pas de fiel, c'est mollasse. Suffit. J'aurai l'œil dessus. Voyons comme quoi Germain est un mangeur, dit un prisonnier. Explique-toi, gros boiteux, reprit le squelette, qui ne quitta plus Franck du regard. Voilà, dit le gros boiteux, un Nantais nommé Velu, ancien libéré, a éduqué le jeune homme dont on ignore la naissance. Quand il a eu l'âge, il l'a fait entrer à Nantes chez un banquezingue, croyant mettre le loup dans sa caisse et se servir de Germain pour empaumer une affaire superbe qu'il mitonnait depuis longtemps. Il avait deux cordes à son arc, un faux et le soulagement de la caisse du banquezingue, peut-être 100 000 francs, à faire en deux coups. Tout était prêt. Velu comptait sur le petit jeune homme comme sur lui-même. Ce galopin-là couchait dans le pavillon où était la caisse. Velu lui dit son plan. Germain ne répond ni oui ni non, dénonce tout à son patron et file le soir même pour Paris. Les détenus firent entendre de violents murmures d'indignation et des paroles menaçantes. « C'est un mangeur, il faut le désosser. Si l'on veut, je lui cherche querelle et je le crève. Faut-il lui signer sur la figure un billet d'hôpital ?»« Silence dans la pègre !» dit le squelette d'une voix impérieuse. Les prisonniers se turent. « Continue !» dit le prévôt au gros boiteux, et il se remit à fumer. Croyant que Germain avait dit oui, comptant sur son aide, Velu et deux de ses amis tentent l'affaire la nuit même. Le banquezingue était sur ses gardes. Un des amis de Velu est pincé en escaladant une fenêtre, et lui a le bonheur de s'évader. Il arrive à Paris, furieux d'avoir été mangé par Germain et d'avoir manqué une affaire superbe. Un beau jour, il rencontre le petit jeune homme. Il était plein jour. Il n'ose rien faire, mais il le suit. Il voit où il demeure, et une nuit, nous deux, Velu et le petit Ledru, nous tombons sur Germain. Malheureusement, il nous échappe. Il déniche de la rue du Temple, où il demeurait. Depuis, nous n'avons pu le retrouver. Mais s'il est ici, je demande. Tu n'as rien à demander, dit le squelette avec autorité. Le gros boiteux se tut. « Je prends ton marché, tu me cèdes la peau de Germain, je l'écorche. Je ne m'appelle pas le squelette pour rien. Je suis mort d'avance, mon trou est fait à clamart, je ne risque rien de travailler pour la pègre. Les mangeurs nous dévorent encore plus que la police. On met les mangeurs de la force à la roquette, et les mangeurs de la roquette à la conciergerie. Ils se croient sauvés. Minute. Quand chaque prison aura tué son mangeur, n'importe où il est mangé, ça ôtera l'appétit aux autres. Je donne l'exemple. On fera comme moi. » Tous les détenus, admirant la résolution du squelette, se pressèrent autour de lui. Barbillon lui-même, au lieu de rester auprès de la porte, se joignit au groupe et ne s'aperçut pas qu'un nouveau détenu entrait dans le parloir. Ce dernier, vêtu d'une blouse grise, et portant un bonnet de coton bleu, brodé de laine rouge enfoncé sur ses yeux, fit un mouvement en entendant prononcer le nom de Germain. Puis il alla se mêler parmi les admirateurs du squelette, et approuva vivement de la voix et du geste la criminelle détermination du prévôt. « Est-il crâne le squelette ?» disait l'un. « Quelle sorbonne ! Le diable en personne ne le ferait pas caner. » « Voilà un homme. Si tous les pègres avaient ce front-là, c'est eux qui jugeraient et qui feraient guillotiner les pentes. Ce serait juste, chacun son tour. Oui, mais on ne s'entend pas. C'est égal. Il rend un fameux service à la pègre. En voyant qu'on les refroidit, les mangeurs ne mangeront plus. C'est sûr. Et puisque le squelette est si sûr d'être fauché, ça ne lui coûte rien de tuer le mangeur. » « Moi, je trouve que c'est rude, dit Franck, tuer ce jeune homme. »« De quoi, reprit le squelette d'une voix courroucée, on n'a pas le droit de buter un traître ?»« Oui, au fait, c'est un traître, tant pis pour lui, dit Franck, après un moment de réflexion. » Ces derniers mots et la garantie du gros boiteux calmèrent la défiance que Franck avait un moment soulevée chez les détenus. Le squelette seul persévéra dans sa méfiance. Ah, ça. Et comment faire avec le gardien? Dis donc, mort d'avance, car c'est aussi bien ton oncle squelette, reprit Nicolas en ricanant. Eh bien, on l'occupera d'un côté, le gardien. Non, on le retiendra de force. Oui, non, silence dans la pègre, dit le squelette. On fit le plus profond silence. Écoutez-moi bien, reprit le prévôt de sa voix enrouée. Il n'y a pas moyen de faire le coup pendant que le gardien sera dans le chauffoir ou dans le préau. Je n'ai pas de couteau. Il y aura quelques cris étouffés. Le mangeur se débattra. Alors, comment? Voilà comment. Pique-Vinaigre nous a promis de nous conter aujourd'hui, après dîner, son histoire de gringalet et coupe en deux. Voilà la pluie, nous nous retirerons tous ici, et le mangeur viendra se mettre là-bas dans le coin, à la place où il se met toujours. Nous donnerons quelques sous à Pique-Vinaigre pour qu'il commence son histoire. C'est l'heure du dîner de la geôle. Le gardien nous verra tranquillement occupé à écouter les fariboles de gringalet et de coupe en deux. Il ne se défiera pas, ira faire un tour à la cantine. Dès qu'il aura quitté la cour, nous avons un quart d'heure à nous. Le mangeur est refroidi avant que le gardien soit revenu. Je m'en charge. J'en ai étourdi de plus roide que lui, mais je ne veux pas qu'on m'aide. Minute, s'écria Cardillac. Et l'huissier qui vient toujours blaguer ici avec nous à l'heure du dîner, s'il entre dans le chauffoir pour écouter Pique-Vinaigre, et qu'il voit refroidir Germain, il est capable de crier au secours. Ce n'est pas un homme culotté, l'huissier, c'est un pistolier. Il faut s'en défier. C'est vrai, dit le squelette. Il y a un huissier ici, s'écria Franck. Victime, on le sait, de l'abus de confiance de Maître Boulard. Il y a un huissier ici, reprit-il avec étonnement. Et comment s'appelle-t-il?
Boulard,
dit Cardillac. « C'est mon homme !» s'écria Franck en serrant les poings. « C'est lui qui m'a volé ma masse !»«
L'huissier ?» demanda le prévôt.
« Oui, 720 francs qu'il a touché pour moi.
Tu le connais ?»«
Il t'a vu ?» demanda le squelette.
« Je crois bien que je l'ai vu, pour mon malheur. Sans lui, je ne serais pas ici. »
Ses regrets sonnèrent mal aux oreilles du squelette. Il attacha longuement ses yeux louches sur Franck, qui répondait à quelques questions de ses camarades, puis se penchant vers le gros boiteux, il lui dit tout bas, « Voilà un cadet qui est capable d'avertir les gardiens de notre coup. »
« Non, j'en réponds, il ne dénoncera personne. Mais c'est encore frileux pour le vice, et il serait capable de vouloir défendre Germain. Vaudrait mieux l'éloigner du préau. »
« Suffit, dit le squelette, et il reprit tout haut. « Dis donc, Franck, est-ce que tu ne le rouleras pas, ce brigand d'huissier? Laissez faire, qu'il vienne, son compte est bon.
Il va venir, prépare-toi.
Je suis tout prêt. Il portera mes marques.
Ça fera une batterie. On renverra l'huissier à sa pistole, et Franck au cachot, dit tout bas le squelette, au gros boiteux. Nous serons débarrassés de tous deux.
Quelle Sorbonne, ce squelette est-il roué? Dit le bandit avec admiration.
Puis il reprit tout bas, « Ah ça, préviendra-t-on Pique-Vinaigre, qu'on cédera de son compte pour engourdir le gardien et escarper le mangeur ?»«
Non, Pique-Vinaigre est trop mollasse et trop poltron. S'il savait ça, il ne voudrait pas compter. Mais le coup fait, il prendra son parti. » La cloche de dîner sonna. « À la pâtée, les chiens, dit le squelette. Pique-Vinaigre et Germain vont rentrer au préau. « Attention, les amis, on m'appelle mort d'avance, mais le mangeur aussi est mort d'avance. »